Donc le titre de cette petite conférence, La Vierge Marie, dernier recours pour sauver le monde. Alors on se posera deux questions. Pourquoi Marie est-elle le dernier recours? Eh bien, nous avons la réponse dans le traité de la vraie dévotion de Salut Marie Rion de Montfort. Il développe cette idée que Marie est la mère des prédestinés. Pour récompenser son humilité profonde, Dieu a donné à Marie le pouvoir et la commission de remplir de saints les trônes laissés vides dont les anges apostats sont tombés par orgueil. Donc, à l'épreuve des anges, selon les pères, un tiers des anges se sont révoltés contre Dieu, et donc ça fait quelques milliards de places libres dans le ciel. Et donc, pour combler ces places, eh bien, le bon Dieu a créé les hommes qui doivent tendre à la sainteté et remplacer cette place des anges qui ont défailli. Dieu a fait de Marie la souveraine du ciel et de la terre, la générale de ses armées, la trésorière de ses trésors, la dispensatrice de ses grâces, la médiatrice des hommes, l'exterminatrice des ennemis de Dieu. Alors pourquoi cela? Parce que, bien sûr, Dieu a créé les hommes, hélas, ont chuté, et le bon Dieu a promis un sauveur, et Marie est la mère du sauveur. Donc, notre saint Louis-Marie Lyon de Montfort explique que Marie ayant mis au monde notre Seigneur Jésus-Christ, le chef des prédestinés, le nouvel Adam, qui est venu pour relever les hommes qui étaient tombés. Donc, notre Seigneur est la tête du corps mystique. Elle doit donc mettre au monde, Marie, les membres de ce corps, c'est-à-dire l'ensemble des prédestinés, l'ensemble des saints du ciel. Et saint Jean-Eudes l'explique à sa façon. Il dit « De même que le Père éternel a donné à Marie le pouvoir de concevoir son Fils et dans son cœur et dans son sein virginal, de même il lui a donné aussi puissance, en même temps, de le former et de le faire naître dans les cœurs des enfants d'Adam, et de les rendre par ce moyen membres du Christ et enfants de Dieu. » Et ceci a été annoncé dès la chute de nos premiers parents. Voici les paroles de la Genèse, chapitre 3, verset 15. « Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, et ta race et la sienne. Elle-même t'écrasera la tête, et tu mettras des embûches à son talon. » Alors, une petite précision pour le mot « elle-même », en latin « ipsa », « elle-même t'écrasera la tête ». Selon la Vulgate, il s'agit de la femme, c'est-à-dire de la très sainte Vierge Marie. Mais la leçon la plus sûre, c'est ce qu'a traduit l'hébreu, les septante et le syriaque, c'est plus juste. Elle-même, c'est la descendance, c'est-à-dire le Christ. Et puis, bien sûr, les enfants des baptisés, qui sont frères de Jésus-Christ. Alors, pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'il faut plutôt penser que c'est sa descendance? Parce que Satan a vraiment blessé notre Seigneur au talon, c'est-à-dire dans la partie inférieure de son humanité. La fuite en Égypte, la tentation au désert, la persécution des Juifs et enfin la mort sur la croix. Notre Seigneur a payé sa victoire de ses blessures et de sa vie corporelle, alors que Marie n'a été ni tentée, ni persécutée. Sa mort n'a pas eu un caractère pénal, donc elle n'a pas été mordue au talon. Elle s'est montrée l'ennemi actif du démon par sa coopération à l'œuvre de la rédemption. Certes, son âme était percée d'un glaive de douleur, mais Satan ne l'a jamais mordue. Donc, il vaut mieux attribuer ce petit mot elle-même à la descendance de notre Seigneur. Marie est la plus terrible ennemie de Satan, elle est toute puissante contre lui. Et Saint Louis-Marie commente ainsi ce verset de la Genèse que nous venons d'expliquer. « Jamais Dieu n'a fait et formé qu'une inimitié, mais irréconciliable, qui durera et augmentera jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au temps de l'Antéchrist. C'est entre Marie, sa digne mère, et le diable, entre les enfants et les serviteurs de la Sainte Vierge, et les enfants et les suppôts de Lucifer. En sorte que la plus terrible des ennemis que Dieu ait faite contre le diable est Marie, sa sainte mère. » Alors vous comprenez pourquoi, à notre époque, Marie est le remède pour sauver le monde. Parce que Satan commence à prendre possession du monde, donc il est déchaîné, et donc sa plus terrible ennemie, c'est Marie. Et donc c'est pour ça qu'elle intervient spécialement à notre époque. Marie est la plus terrible ennemie de Satan, il ne peut rien contre elle. Dès sa conception, elle est ennemie de Satan. Il n'a aucun pouvoir sur elle puisqu'elle est immaculée. Elle a été confirmée en grâce, c'est-à-dire préservée de tout péché, même véniel, à l'abri de toute défaillance. Elle sera entièrement, pendant toute sa vie, soustraite au démon. Il n'a aucune prise sur elle. Elle sera la mère de celui qui écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire que sa descendance ruinera l'empire de Satan, brisera sa puissance de chef. En mettant au monde notre Seigneur va écraser Satan, il va lui prendre son pouvoir qu'il a sur l'humanité. De même que la désobéissance d'Ève commença notre perte, Marie, par son obéissance, commença notre salut. Alors, si le démon ne peut rien contre la Vierge, elle peut tout contre lui. Et cette toute-puissance de la Sainte Vierge commence au Cénacle, à la Pentecôte. Marie prie et intercède pour les apôtres qui vont conquérir, morceau par morceau, l'empire de Satan. Après son assomption, elle est la toute-puissance suppliante qui nous distribue toutes les grâces de la rédemption pour remplir le ciel d'élu. Marie est la reine du ciel qui a charge et pouvoir de rendre à Dieu la gloire dont les anges rebelles l'ont frustrée. Et cette toute-puissance de Marie se manifeste vis-à-vis des pécheurs. Elle lui arrache les âmes. Dans la vie des saints, peu de cas vraiment in extremis. Même quelquefois, il y a des histoires dans la vie des saints où la très sainte Vierge Marie permet de ressusciter un mort qui était déjà en enfer pour pouvoir le sauver. Donc, elle arrache aux démons des âmes. Et comme le démon ne peut rien contre Marie, mais que va-t-il faire? Ben, il va le faire la guerre à ses enfants. Et c'est ce que nous dit Saint Jean dans l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme, et il alla faire la guerre à ses autres enfants, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Il y a donc une inimitié entre la race de Satan et la descendance de Marie. La race de Satan, eh bien, ce sont tous les hommes pervers qui imitent sa conduite de révolté. Mais il y a aussi tous les chrétiens qui vivent mal, qui vivent en état de péché mortel ou qui vivent d'une manière continuelle. Même s'ils peuvent encore se sauver, quand ils pêchent, eh bien, de fait, ils sont des enfants de Satan. ils font son jeu. Les enfants de Marie, c'est d'abord son fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est par nature, et puis tous les enfants, par grâce, les prédestinés, c'est-à-dire tous les baptisés, les membres du corps mystique. Et jusqu'à la fin du monde, Satan et ses anges persécuteront la descendance spirituelle de Marie, ce qui entraîne que les justes auront à lutter et à vaincre en tout temps. Même en temps de chrétienté, il y a toujours à lutter et à vaincre. Et quand on lit l'histoire des 2000 ans de complot contre l'Église, eh bien, on voit bien cette lutte, elle n'a jamais cessé. Dans tel pays, dans tel autre, il y a toujours des persécutions. Et quand il n'y a pas de persécution, eh bien, le démon agit par ses suggestions pour faire tomber les hommes dans le péché. Donc le monde est partagé en deux camps adverses. La cité, c'est les deux cités de Saint-Augustin, la cité de Dieu et la cité du diable. Et à d'autres époques, ces deux cités, c'est encore plus tranché. En période de chrétienté, c'est moins tranché. Il y a la cité de Dieu, donc le monde chrétien, et puis il y a l'esprit du monde, le monde de Satan, mais il est un petit peu diminué. Donc, dans ces deux cités, les uns acceptent le plan de la rédemption, c'est la cité de ceux qui font partie de la cité de Dieu, et les autres le refusent et restent du côté de Satan. La plupart en sont inconscients. Il suffit pour faire partie de la cité de Satan, eh bien, de vivre dans le péché mortel. Là, Satan, il s'occupe pas tellement de ces âmes-là, il est sûr de les avoir pour lui, donc il ne les embête plus trop après. Et puis il y a tous ceux qui sont convaincus qu'il faut combattre l'Église. Alors ceux-là, c'est des prédicateurs de Satan. Dans son petit livre d'or, Saint-Louis-Marie dit ceci: « Non seulement Dieu a mis une inimitié, mais des inimitiés, non seulement entre Marie et le démon, mais entre la race de la Sainte Vierge et la race du démon. » C'est-à-dire que Dieu a mis des inimitiés, des antipathies, des haines secrètes entre les vrais enfants et serviteurs de la Vierge Marie et les enfants et les esclaves du diable. Ils ne s'aiment point mutuellement, ils n'ont point de correspondance intérieure les uns avec les autres. Les enfants de Bélial, les esclaves de Satan, les amis du monde, car c'est la même chose, ont toujours persécuté jusqu'ici et persécuteront plus que jamais ceux et celles qui appartiennent à la très sainte Vierge, comme autrefois Caïn persécuta son frère Abel et Ésaü son frère Jacob, qui sont les deux figures des réprouvés et des prédestinés. Mais l'humble Marie aura toujours la victoire sur cet orgueilleux, est si grande qu'elle ira jusqu'à lui écraser la tête où réside son orgueil. Elle découvrira toujours sa malice de serpent. Elle éventera ses mines infernales, elle dissipera ses conseils diaboliques et garantira jusqu'à la fin des temps ses fidèles serviteurs de sa patte cruelle. Dans les débuts de l'Église, à la Pentecôte, Marie oppose à la haine de Satan la force irrésistible de conquête de l'Église naissante. Satan mord sa descendance par les persécutions qui dureront 3 siècles, des milliers de martyrs, mais sans parvenir à arrêter son expansion. Au contraire, plus il y a de martyrs, plus il y a de chrétiens, de païens qui se convertissent au christianisme. Et donc, il y en a été toujours ainsi dans l'Église. Chaque fois que des missionnaires sont envoyés pour de nouvelles conquêtes, maintenant pratiquement tous les pays ont été évangélisés, et chaque fois il y a eu des persécutions, et bien souvent très sanglantes. Alors, cette persécution qu'il y a eu depuis les débuts de l'Église, avec des hauts et des bas pendant ces 2000 ans, ira en s'intensifiant. Et une étape de cette intensification a commencé au XIXe siècle, selon le secret de la Salette, qui nous dit « En 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. » On en voit les effets actuellement. Donc, on voit que les démons sont nombreux sur Terre et donc le pouvoir de Satan est accru en proportion de la défection de la foi chez les fidèles. Mais, sachant que son temps est compté pour perdre les âmes, il redoublera ses efforts et ses combats. Il suscitera bientôt de cruelles persécutions et mettra de terribles embûches aux serviteurs et aux vrais enfants de Marie. Embûches qui augmenteront tous les jours jusqu'au règne de l'Antéchrist. C'est dans ces derniers temps qu'éclatera particulièrement le pouvoir de Marie. Et le Père Kolb, qui est un grand apôtre de la Sainte Vierge Marie au XXe siècle, ne dit pas autre chose. Jusqu'à la fin des temps, Satan ne cessera de tenter, de poser des obstacles, de combattre, mais seulement dans les limites consenties par l'Immaculée. Ce qui veut dire autant qu'il sera nécessaire pour recueillir des mérites pour une victoire toujours certaine. Si nous combattons sous son enseigne, avec elle, à travers elle, par elle et en elle. Donc il emploie les mêmes mots que Saint-Louis-Marie de Montfort pour la dévotion mariale. Donc, vous voyez, chaque fois qu'il y a un combat très violent entre Satan et la Sainte Vierge Marie et ses enfants, on est sûr de la victoire. Et plus le combat est difficile, eh bien plus la victoire sera éclatante. Ce combat des serviteurs de Marie doit aboutir à la victoire de Marie, qui sera le prélude nécessaire au règne du Sacré-Cœur. Marie doit éclater, dit Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, plus que jamais en miséricorde, en force et en grâce dans ces derniers temps. En miséricorde pour ramener et recevoir amoureusement les pauvres pécheurs et dévoyés qui se convertiront et reviendront à l'Église catholique. En force contre les ennemis de Dieu, les idolâtres, les schismatiques, les mahométans, c'est-à-dire les musulmans, les juifs, les impies endurcis, qui se révolteront terriblement pour séduire et faire tomber par promesses et menaces tous ceux qui leur seront contraires. Et enfin, elle doit éclater en grâce pour animer et soutenir les vaillants soldats et fidèles serviteurs de Jésus-Christ qui combattront pour ses intérêts. Donc vous voyez, actuellement, avec toute la franc-maçonnerie, tous ceux qui sont en train de conduire le mondialisme, donc ils vont provoquer des persécutions qui pourront être très fortes, mais la très sainte Vierge Marie obtiendra la victoire. Elle convertira les âmes, et puis elle vaincra les ennemis. Alors la deuxième question qu'il faut se poser, par quel moyen Marie va-t-elle sauver ses enfants? Alors il faut tout d'abord faire un petit historique pour mieux comprendre les choses que nous vivons actuellement. On peut dire que dès 1830, donc apparition de la rue du Bac à Paris, commence le siècle d'or de Notre-Dame. Ces apparitions de 1830 ont exercé, au point de vue marial, sur le monde, une influence profonde qui continue encore avec la diffusion de la médaille miraculeuse, en renouvelant dans des millions d'âmes la confiance en l'intervention puissante et miséricordieuse de Marie. Ces apparitions sont un résumé synthétique de toute la doctrine mariale qui sera développée ensuite pendant plus d'un siècle. L'Immaculée Conception, la royauté de Notre-Dame sur le monde et sur les âmes, sa médiation universelle, sa co-rédemption. Au XIXe siècle, un abbé de Notre-Dame des Victoires, l'abbé Desgenettes, s'est montré un précurseur de Fatima. L'apparition à la rue du Bac en 1830 va réveiller la dévotion mariale et répandre des flots de grâce par la propagation de la médaille miraculeuse. Cette propagation va se faire rapidement, d'une part grâce aux guérisons et aux conversions opérées par la médaille, et d'autre part par l'archiconfrérie du Cœur Immaculé de Marie pour la conversion des pécheurs, fondée par M. l'abbé Desgenettes, curé de Notre-Dame des Victoires à Paris. Celui-ci adopte comme médaille de l'association la médaille miraculeuse. Et pendant la Sainte Messe, il reçoit l'inspiration de consacrer sa paroisse au cœur très saint et immaculé de Marie et d'obtenir par ce moyen de faire revivre sa paroisse. Et ça ne tarde pas, le soir même, à Vêpres, sa paroisse, son église était pleine. À sa mort en 1860, donc même pas 30 ans après, moins de 30 ans après, l'archiconfrérie comptait déjà 20 millions de membres. Donc 20 millions de membres qui portent la médaille miraculeuse et qui se font les propagateurs de la médaille miraculeuse. Autre événement important au cours de ce 19e siècle, en 1842, on découvre à Saint-Laurent-sur-Sèvre le manuscrit du traité de la vraie dévotion par Saint-Louis-Marie. Ce traité avait été mis dans les oubliettes depuis pratiquement plus de 50 ans, même non pas tout à fait un siècle, mais enfin 75 ans. Et là, on le découvre. Et donc, c'est une révélation. Il va être traduit en beaucoup de langues et se répandre par millions dans le monde entier. Et donc, favoriser le développement de la mariologie qui mènera des millions d'âmes à se consacrer à la Très Sainte Vierge. Donc, oui, c'est en parallèle avec le développement de la médaille miraculeuse. Ensuite, au cours de ce 19e, il y a toute la série des apparitions mariales. Notre-Dame de la Salette en 1846, avec le secret qui nous dresse les principaux événements qui doivent jalonner l'histoire de l'Église et du monde depuis Napoléon III jusqu'à la chute de l'Antéchrist. Si Marie nous en fait la révélation, c'est que nous sommes entrés dans ces temps difficiles. Ensuite, peu de temps après, il y a Lourdes, avec la confirmation du dogme de l'Immaculée Conception, défini 4 ans plus tôt par Pie IX, et ce dogme de l'Immaculée Conception sera le fondement de la mariologie qui allait se développer pendant plus d'un siècle. Ensuite, il y aura d'autres apparitions, Pontmain, Pellevoisin. À Pellevoisin, petite apparition apparemment, et vous savez que la voyante était guérie miraculeusement par la Très Sainte Vierge Marie, et tous les commentateurs de ces apparitions, de ce message, où justement la Très Sainte Vierge Marie lui demande de propager le scapulaire du Sacré-Cœur de Jésus, bien voit dans Estelle Faguette l'image de la France. Donc Estelle elle a la tuberculose, elle est à la dernière extrémité, les médecins l'ont condamnée, elle ne peut plus rien faire, donc elle va mourir. Et la Très Sainte Vierge Marie lui annonce sa guérison à la fin de la semaine. Et là, le dernier jour, elle est guérie, miraculeusement, complètement guérie, donc elle va être la fidèle messagère de la Très Sainte Vierge Marie pour propager le message. Et cette maladie d'Estelle Faguette, eh bien, c'est l'image de la France qui sera pratiquement aux portes de la mort, aucun espoir humain de la sauver, et c'est la Vierge Marie qui la sauvera in extremis, et donc qui va préparer après le règne du Sacré-Cœur. Enfin, la grande apparition qui jalonne toutes ces séries d'apparitions mariales, qui la termine pour ainsi dire, c'est Fatima en 1917. Et vous voyez, Fatima en 1917 sera connue jusqu'en 1940 qu'au Portugal pratiquement. En Europe et dans le monde, ce ne sera pas connu. C'est seulement à partir de 1940 que les apparitions de Fatima vont se faire connaître dans le monde entier, et notamment avec le pape Pie XII qui va consacrer l'Église et le monde au cœur immaculé de Marie. Au XIXe, un autre événement qui finalement va dans le même sens de ce que nous venons de voir, c'est le règne du pape Léon XIII, qui est le pape du Rosaire, de 1878 à 1903. Il écrira 9 encycliques mariales, et ces encycliques mariales serviront de base au développement de la mariologie, base doctrinale. Et puis c'est ce pape qui établira le mois d'octobre, mois du Rosaire. Et Pie XII, en 1942, donc vous voyez, nous sommes un peu plus d'un siècle après les apparitions de la rue du Bac à Paris, consacre l'Église et le monde au cœur immaculé de Marie. En 1950, il définit le dogme de l'Assomption. Et en 1953, il ouvre la première année mariale qui accueillera 8 millions de pèlerins à Rome. Et il clôt cette année mariale le 8 décembre 1854, un 100 ans, jour pour jour, avec la définition du dogme de l'Immaculée Conception. Et il clôt cette année mariale par un hommage à la royauté de Marie, dont l'encyclique Ad Coeli Reginam expose les fondements et l'exercice. Donc vous voyez, en un siècle, la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie s'est développée, la mariologie s'est développée, et on arrive, au temps de Pie XII, au règne de Notre-Dame. Il fallait peu de choses pour que, finalement, Marie règne. Si le pape Pie XII avait consacré la Russie au cœur immaculé de Marie avec toutes les conditions, on aurait eu le règne de Marie, avec le règne du Sacré-Cœur qui devait suivre après. Alors, voyons maintenant la dévotion au Sacré-Cœur, au cœur immaculé de Marie. Donc, dans tous ces événements qui ont émaillé le XIXe siècle, l'abbé des Genettes a quand même une place particulière. Il était un précurseur de cette dévotion au cœur immaculé de Marie qui éclatera à Fatima. Dans les annales de la confrérie, l'abbé des Genettes énonce ce qu'est le cœur immaculé. On y trouve les idées du message de Fatima. Le cœur immaculé de Marie est le refuge, le remède à tous les maux. La dévotion au cœur immaculé est le moyen d'apaiser la justice divine. Le moyen infaillible d'apaiser la justice divine, c'est la médiation toute puissante du cœur de Marie, cœur très saint, cœur immaculé, cœur enrichi de toutes les grâces, pétri de toutes les vertus, cœur qui exerce sur le divin cœur de Jésus une puissance telle qu'aucun de ses désirs ne peut manquer d'être à l'instant et surabondamment comblé. Et c'est Marie qui a fourni le sang adorable qui animait le cœur de Jésus, ce sang précieux et divin, par le mérite et l'effusion duquel le monde entier a été racheté. Et il continue, « Marie nous l'offre aujourd'hui, ce cœur admirable. Elle nous le présente comme le refuge, le remède à tous nos maux. Venons donc nous enrôler sous la bannière de son admirable cœur. » Puis il cite saint Bonaventure, « Celui qui honorera la Sainte Vierge sera sauvé, mais celui qui négligera son culte et son service mourra infailliblement dans son péché. » Ne reconnaît-on pas la phrase de Marie à Fatima, Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Et sœur Lucie nous précise, dans le dernier livre qu'elle a écrit, « Appel du message de Fatima », que cette parole n'est pas que pour elle, mais pour toutes les âmes. Et ne reconnaît-on pas également ce que sœur Lucie disait au Père Fuentes? Si nous méprisons cet ultime moyen, c'est-à-dire la dévotion à la Très-Sainte Vierge Marie, avec la pratique des cinq premiers samedis du mois, la récitation quotidienne du rosaire, nous n'aurons plus le pardon du ciel parce que nous aurons commis un péché contre le Saint-Esprit. À Fatima, sœur Lucie reçoit de Jésus la mission de faire établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé. Voici les paroles que notre Seigneur lui adresse le 13 juin 1917. Jésus veut se servir de toi, sont les paroles de Notre-Dame, afin de me faire connaître et de me faire aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Donc oui, cette dévotion au cœur immaculé de Marie, c'est connaître Marie et l'aimer. Et en 1943, sœur Lucie écrit à un évêque que notre Seigneur vient de lui dire ces paroles. « Je désire ardemment la propagation du culte et de la dévotion au cœur immaculé de Marie, parce que ce cœur est l'aimant qui attire les âmes à moi, le foyer qui irradie sur la terre les rayons de ma lumière et de mon amour, la source intarissable qui fait jaillir sur la terre l'eau vive de ma miséricorde. » Donc, vous voyez, la dévotion au cœur immaculé de Marie prépare la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, le règne du Sacré-Cœur. La vraie dévotion mariale, c'est aimer tellement la Vierge Marie qu'on va se consacrer à elle avec tout ce qu'on est et tout ce qu'on possède. C'est l'aboutissement normal. On aime tellement Marie, on veut tellement la servir, qu'on se consacre à elle. Cette consécration consiste, dit le Père Kolb, à être à l'Immaculée. Il dit ailleurs, être la chose de Marie. Notre vie intérieure doit être telle que nous soyons un instrument dans la main de l'Immaculée pour lui permettre de nous conduire en tout. Il faut se dépouiller le plus vite de soi, ne rien garder pour soi, absolument rien. Il faut que ce soit elle qui fasse tout. Alors, vivre la consécration mariale nous rend missionnaires et prépare le règne du Sacré-Cœur de Jésus. Cet amour de la Vierge Marie vécu dans la consécration mariale a pour effet le zèle des âmes et doit, dit le Père Kolb, rayonner sur notre entourage, conquérir les âmes à l'Immaculée, afin qu'elles règnent dans le cœur de tous ceux qui se trouvent partout dans le monde, sans distinction de race, de nationalité ou de langue. Ensuite, le Père Kolb explique, sans le savoir, la phrase de la Vierge Marie à sœur Lucie. « Mon cœur immaculé sera le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Voici ce qu'il dit. « De même que l'Immaculée est à Jésus, à Dieu, de même chaque âme va être par elle et en elle, à Jésus et à Dieu. Ces âmes parviendront à aimer le Sacré-Cœur de Jésus beaucoup mieux qu'elles ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Et comme l'Immaculée, elles vont pénétrer dans les profondeurs de l'amour de ce Sacré-Cœur. La croix et l'Eucharistie, beaucoup mieux qu'auparavant. L'amour divin, par elle, l'Immaculée, mettra le feu au monde, le feu de l'amour, et le consumera. Alors se produira l'ascension des âmes par l'amour. Pour que cela arrive, il faut que ce soit elle qui agisse, qu'on se donne à elle sans limite, c'est la condition absolue. Par notre sanctification personnelle, nous hâterons le triomphe du cœur immaculé de Marie et la venue du règne du Sacré-Cœur qui doit passer par la conversion de la France. Et là, encore lui, l'abbé Desgenettes, a vraiment une inspiration prophétique. Voici ce qu'il dit, donc au 19e. Une nouvelle rédemption nous est préparée. Marie, souveraine de la France, n'a point oublié son peuple. Elle a prié pour lui. Et le Dieu des miséricordes nous donne le cœur de Marie comme gage de son amour et de ses desseins miséricordieux. Avec lui et par lui, la France catholique reprendra son rang glorieux. On croirait entendre Saint Pidis qui parle de la conversion de Saint Paul. La fille aînée de l'Église romaine sera toujours l'avant-garde de la catholicité. Voilà la destinée de la France. Elle est écrite au livre des miséricordes divines. Rappelez-vous, Estelle Faguette, morte, pratiquement. Elle va mourir, là, il n'y a plus d'espoir. La France, ben voilà, c'est la France actuelle. Elle est quasi morte, elle n'a plus d'espoir. Mais elle n'est pas morte encore. Mais c'est sous l'étendard saint, pacifique et glorieux du très saint et immaculé cœur de Marie qui lui sera donné de marcher. Donc c'est par le cœur immaculé de Marie que la France se convertira et qu'elle pourra être l'objet de l'effusion formidable des grâces sorties du Sacré-Cœur de Jésus et qu'elle pourra enfin remplir sa mission et porter le nom de Jésus à toutes les nations. Alors résumons-nous. Notre amour de la Vierge Marie doit se traduire par une vraie dévotion mariale. Cette dévotion passe par la pratique du chapelet quotidien, la méditation du chapelet quotidien, la pratique des cinq premiers samedis du mois et l'accomplissement exact de nos devoirs d'état quotidien. Ceci doit aboutir à l'acte de consécration personnelle au cœur immaculé de Marie. Cette vie mariale individuelle doit déborder sur la famille, la cité, la nation et l'Église. Au niveau de l'Église, aimer Marie consiste à répondre à sa demande de consécration de la Russie à son cœur immaculé. Si le clergé catholique aime la Sainte Vierge Marie, eh bien, il fera cet acte d'obéissance, petit acte d'obéissance. Ce sera l'événement qui permettra le triomphe du cœur immaculé promis à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera et un temps de paix sera donné au monde. Et alors, on aura la venue du règne du Sacré-Cœur, selon ce que notre Seigneur a dit à Lucie en 1936. Je veux que mon Église reconnaisse cette dévotion au cœur immaculé de Marie comme un triomphe du cœur immaculé de Marie, afin de défendre ensuite son culte et placer à côté de la dévotion à mon divin cœur, la dévotion au cœur immaculé de Marie. Alors concluons. Il faut recourir aux moyens que nous a donné la Sainte Vierge. Zèle apostolique, un moyen facile, c'est l'apostolat de la médaille miraculeuse. Voilà, dans les gens qu'on rencontre, dans nos milieux de vie, eh bien, on peut leur proposer la médaille miraculeuse. S'ils acceptent, eh bien, on peut leur expliquer. C'est pas compliqué, c'est un petit condensé de théologie mariale. Donc, en quelques mots, on va faire un enseignement qui sera très très solide. Donc, on va faire connaître l'Immaculée et on peut aussi participer au groupe La France Prie. Actuellement, ça se développe dans tous les pays, même à l'étranger. Et donc, c'est un moyen de montrer publiquement, eh bien, de faire connaître la Très Sainte Vierge Marie, puis de la prier pour qu'elle puisse, par notre prière, agir et convertir les pécheurs. Pratiquer l'amour de Marie, donc se consacrer au cœur immaculé de Marie, selon la méthode de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Si on veut bien le faire, vous le savez, il y a toute une préparation. On peut se préparer pratiquement pendant un mois par une petite méditation de tous les jours. Et puis ensuite, on fait cette consécration où on se dépossède de tout ce qu'on est, même de nos biens spirituels, et on les met dans le cœur de Marie qui en est la trésorière. Méditer le chapelet quotidien pour mieux connaître et aimer la Vierge Marie et notre Seigneur. Les mystères du rosaire, c'est un évangile en raccourci. Et si on médite toutes les vérités, toutes les scènes de l'évangile qui sont résumées dans le rosaire, bien petit à petit, on a une connaissance profonde qui s'enracine bien dans nos âmes et puis qui va nous faire mieux aimer la Très Sainte Vierge et notre Seigneur. Et enfin, il faut participer à l'œuvre de la rédemption selon notre condition, pratiquer l'esprit de sacrifice demandé par notre Seigneur, celui de l'accomplissement de notre devoir d'État et l'observance de la loi de Dieu. Ça peut paraître une petite chose, mais c'est une chose très parfaite. C'est un petit peu comme la règle des religieux. Un pape a dit qu'un religieux qui pratiquait sa règle parfaitement, il le canoniserait. Parce que ça demande des vertus qui sont développées jusqu'à l'héroïsme. Et là, si on veut vraiment accomplir son devoir d'État fidèlement tous les jours, de plus en plus fidèlement, ça demande beaucoup de petits sacrifices et parfois des vertus héroïques. Voilà, mais c'est ce que nous demanderons à la Très Sainte Vierge Marie, de nous préparer, de nous aider à mieux vivre cette dévotion mariale pour en vivre nous-mêmes et la faire connaître et aimer autour de nous.